historiquement vôtre.
Le récit.
Plonger dans la vie de Néron, c'est s'enfoncer dans un monde de meurtre et de consanguinité au sein des familles les plus puissantes de Rome. Néron est un assassin, aussi despotique que mégalomane. Un homme animé d'une folie sanguinaire.
Arrêtez, on dirait Ondelat.
Et ce n'est que le début. Enfin, je parle pour Néron. Néron est né en 37 après Jésus-Christ. Son père, qui meurt alors qu'il n'a que 3 ans, est connu pour sa violence envers ses esclaves et son goût de la débauche. Sa mère, Agrippine la Jeune, est la sœur de l'empereur Caligula, avec qui elle aurait d'ailleurs couché.
Ça commence vraiment bien.
Caligula, connu lui aussi pour ses frasques et sa démence. Une double et lourde hérédité qui fait dire au père de Néron, juste avant sa naissance, « Il est impossible qu'il naisse un honnête homme de moi et d'elle.
» Lucide, moi.
Alors qu'Agrippine est peu après la naissance de Néron condamnée à l'exil pour avoir comploté contre Caligula, Néron grandit seul auprès d'une tante sans recevoir l'éducation d'un futur empereur, puisqu'il n'est pas du tout l'héritier potentiel du trône. Mais c'est sans compter sur Agrippine. Quand on lui prédit que son fils deviendra empereur et la tuera, elle répond « qu'il me tue, mais pourvu qu'il règne ».
Et Néron a régné, Stéphane.
Et oui, nous sommes en 54. Néron, adopté par celui qui est devenu le nouveau mari de sa mère, l'empereur Claude, est proclamé empereur. Il n'a que 17 ans. Pour sceller son nom plus fortement à celui de Claude et consolider sa position, il a même épousé sa fille. Octavie.
Il a épousé sa fille.
Oui, la fille de l'empereur Claude.
Ah, voilà, vous suivez? Oui, voilà. Je suis.
Mais la mère de Néron, Agrippine, donc, prépare son coup. Elle attend le moment opportun pour empoisonner son époux, l'empereur Claude, à coups de champignons.
Des champignons, allons bon.
Oui, Néron est empereur, mais c'est Agrippine, avec son immense fortune et sa mainmise sur l'armée, qui tire les ficelles. Et pour asseoir son pouvoir, Agrippine élimine tout ce que les familles impériales comptent encore de membres potentiellement dangereux, avant de disparaître elle aussi.
Déjà
Oui, Néron écarte sa trop encombrante maman. Il la chasse de son palais, lui retire ses privilèges, avant de finir par faire assassiner sa mère, réalisant ainsi la prophétie que je vous rappelle, qu'il me tue, mais pourvu qu'il règne. À Rome, où le matricide reste l'ultime tabou, oui, on peut tout faire sauf tuer sa maman, Néron doit justifier son acte devant le Sénat. S'il a tué sa mère, c'est qu'elle-même voulait l'éliminer, explique-t-il.
Ça se tient, c'est une bonne raison, ça dit.
Oui, enfin, c'est pas plausible. En 62, Néron fait aussi exécuter sa femme.
Tant qu'à faire.
Oui, parce qu'il veut se remarier. Il se remarie avec Poppée, qui était jusqu'alors sa maîtresse. Il empoisonne Britannicus. Vous avez vu quand même Britannicus, quand même.
Bien sûr, oui, ça me dit quelque chose.
Ça vous rappelle des souvenirs de l'école, peut-être. Oui. Il empoisonne Britannicus, le fils de Claude, et donc son frère par adoption. Mais attendez, le pire est à venir.
Bon, parce que là, on est déjà pas mal, hein, question pire.
Dans la chaleur suffocante du mois de juillet 64, un incendie se déclare à Rome. La ville est dévastée. Sur les hauteurs de sa capitale en feu, Néron déclame des vers sur la chute de Troie en dansant et en jouant de la cithare.
Ah, bien entendu, c'est classique, quoi, j'ai envie de dire.
Partout, on commence à murmurer que Néron lui-même aurait donné l'ordre de mettre le feu à la ville de Rome. N'a-t-il pas profité de sa destruction pour se faire construire sa somptueuse villa, la Domus Aurea, la maison dorée sur des dizaines d'hectares au cœur même de la ville romaine? Certes, il avait le pouvoir d'exproprier les pauvres pour réaliser son projet, mais pas de détruire les temples qui se trouvaient là. Pour se disculper de cet incendie, Néron choisit un bouc émissaire facile, les chrétiens.
Ah, je ne les ai pas vus arriver, eux.
Les membres de cette toute petite secte, alors, sont jetés en pâture à la plèbe romaine, crucifiés ou transformés en torches vivantes. L'année suivante, l'ancien précepteur de Néron, le philosophe moraliste et richissime banquier Sénèque, est forcé au suicide, accusé d'avoir participé à une conjuration visant Néron. La même année, sa deuxième épouse, Poppée, enceinte, meurt sous ses coups.
J'ai l'impression d'être dans un épisode de Dallas qui aurait été écrit par Stanley Kubrick.
Et vous n'avez pas encore fini l'épisode, Mathieu.
Mon Dieu.
Visiblement peu affecté par cette hécatombe, l'empereur Néron part pour une tournée d'un an en Grèce, où il donne des représentations théâtrales et séquestre les spectateurs pendant des heures à l'intérieur des amphithéâtres pour les forcer à l'écouter.
Un peu comme vous, finalement, Stéphane, quand vous animez un long prime sur le patrimoine en présence d'un public mal nourri dans un hangar à la plaine Saint-Denis.
Mais non, moi, je les oblige pas.
Ah, pardon.
Ils peuvent sortir.
Ah oui, vous êtes sûr?
Non.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Johnny l'avait dit. Il suffira d'une étincelle pour allumer le feu. Et pour Néron, bah c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, n'est-ce pas Stéphane?
Oui, Néron a volontairement fait brûler la ville de Rome. Il est, à n'en pas douter, le plus fou, le plus vil et le plus cruel des empereurs que la terre ait jamais porté. Mais imaginez un instant, Et si tout était faux? Et si tout ce qu'on vient de dire de Néron n'était que pure invention?
J'espère pour vous que non, vous êtes toujours en période d'essai, si on apprend à vous raconter des carabistouilles.
Et reprenons. Néron est un empereur fou qui danse sur les ruines de Rome, taché du sang de ses victimes, frères, mères, épouses, au pluriel, précepteurs. Mais au fait, qui nous raconte cela?
Vous, Stéphane.
Moi, je vous raconte tout ce qu'on sait de Néron, grâce à trois historiens. Tacite, qui était encore enfant à la mort de l'empereur, et Suétone et Dion Cassius, qui ne sont pas des contemporains du tyran. Or, plusieurs textes écrits longtemps après les faits sont bien trop détaillés pour être crédibles. Pour ces historiens, le style est parfois plus important que le fond.
Néron, c'est quand même pas une oie blanche, Stéphane.
Non, bien sûr. Mais il n'est peut-être pas le monstre que l'on a décrit, ni le véritable auteur de tout ce qu'on lui a mis sur le dos. Le mois de juillet 64, par exemple, est le plus chaud et le plus sec que Rome ait connu à l'époque. Et le vent a facilité la progression du feu partout dans la ville sans que les soldats de Néron ne l'allument de tous côtés. Et puis à Rome, les assassinats politiques sont menés courantes. Agrippine et Néron n'ont rien inventé. Plus grave, Néron n'est pas un militaire, il n'aime pas la guerre, il ne cherche pas à agrandir l'Empire. Ça le fâche irrémédiablement avec l'aristocratie et les gouverneurs des colonies. Le 9 juin 68, Néron se suicide en se poignardant à la gorge après le soulèvement de plusieurs de ses gouverneurs. Sa damnatio memoriae, sa condamnation à l'oubli, est votée par le Sénat. Mais il n'a pas été oublié, bien au contraire. Cruellement dépeint dès l'Antiquité, Néron reste aujourd'hui le symbole du mal absolu. Son nom est passé à la postérité en devenant un mot commun. On dit un Néron pour désigner un tyran, forcément.